17h à Bamako, 18h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En RDC, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO, une ONG congolaise, a exigé ce jeudi à Kinshasa la libération immédiate de l'opposant Norbert Louyeye, détenu au secret, selon elle, depuis dimanche par les autorités nationales. M. Louyeye est le président de l'Union des Républicains, UR, un petit parti d'opposition. Et pour l'ASADO, son enlèvement accompagné de la violation et de la perquisition illégale de sa résidence par des militaires armés est dû essentiellement à ses opinions politiques. Selon l'UR, deux jours avant l'incident, M. Louyeye s'était déclaré publiquement contre un nouveau mandat du président Joseph Kabila et contre le dialogue convoqué par lui. L'UR condamne l'enlèvement et la séquestration de son chef et exige sa libération sans condition. On passe maintenant au Congo-Brazzaville. Dans ce pays, un tribunal de la capitale a renvoyé au 16 août l'audience concernant la demande de mise en liberté provisoire du général Jean-Marie Michel Mokoko, détenu depuis mi-juin pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi son avocat, maître Yvon Eric Ibwanga. Le dossier a été renvoyé au mardi 16 août pour des réquisitions et des plaidoiries, a affirmé maître Ibwanga à l'AFP. Nous allons réitérer la demande de mise en liberté de notre client qui n'a plus sa place à la maison d'arrêt au regard des éléments du dossier, a ajouté l'avocat à l'issue d'une audience à huis clos. Le général Mokoko a été inculpé le 16 juin pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Ancien chef d'état-major des armées du Congo de 1987 à 1993, le général Mokoko a démissionné début février de son poste de conseiller du président Denis Sassou Nguesso pour les questions de paix et de sécurité qu'il occupait depuis 2005 pour se porter candidat à l'élection présidentielle de mars où il a recueilli moins de 14 % des voix. En Zambie, élection présidentielle dans le calme ce jeudi, près de 7 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes dans un scrutin avec 9 candidats et 2 grands favoris, John Lindon.
Il s'agit du sortant Edgar Lungu du Front patriotique au pouvoir et de son principal opposant, Akande Ichilema, un riche homme d'affaires autodidacte qui se présente sous la bannière du Parti uni pour le développement national. Après une campagne entachée par plusieurs actes de violence, aucun incident majeur n'avait été rapporté jusqu'à la mi-journée ce jeudi. Le peuple de Zambie doit prendre une décision très importante aujourd'hui, a indiqué Akande Ichilema après avoir voté à Lusaka, ajoutant que le pays connaissait son pire leadership depuis l'indépendance en 1964. Les Zambiens votent 18 mois seulement après la dernière présidentielle organisée pour terminer le mandat de Michael Sata, décédé d'une maladie dans l'exercice de ses fonctions en 2014. À l'époque, Edgar Lungu l'avait emporté de justesse lors d'une élection à un tour. Cette fois, si aucun candidat ne dépasse 50% des voix, un second tour devra être organisé.
En Ouganda, le gouvernement a bloqué les salaires de plus de 5500 fonctionnaires fantômes. Ils sont soupçonnés d'être payés alors qu'ils ne travaillent pas. Eric Manirakiza.
L'opération a été baptisée « Programme d'assainissement de la fonction publique » en vue de rationaliser le secteur public et combattre la corruption. Ainsi, le service public a retiré de ses listes de paye 5586 fonctionnaires soupçonnés d'être fantômes. La mesure est en vigueur depuis juillet dernier. Selon Mururi Mikasa, ministre ougandais de la fonction publique, seuls 308 393 employés du gouvernement ont reçu un salaire pour le mois de juillet. Un audit officiel sur la question a permis l'utilisation des données biométriques pour recenser ces fonctionnaires. Monsieur Mikasa a déclaré que son ministère est en train de soumettre une liste de cas de fraude présumés à la police et à l'inspecteur général du gouvernement pour des enquêtes plus approfondies et de possibles poursuites.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes maintenant. La Turquie appelle la Russie à des opérations conjointes en Syrie contre l'État islamique, alors que l'aviation russe a visé aujourd'hui Raqqa, le fief du groupe djihadiste dans le territoire syrien. Des raids aériens qui ont fait 30 morts, essentiellement des civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Jacques Aristide.
La Russie affirme que six Tupolev ont détruit une usine d'armes chimiques dans une banlieue de Raqqa, de même qu'un entrepôt d'armes et un camp d'entraînement des djihadistes. Des frappes qui ont entraîné des dommages matériels significatifs et tué un grand nombre de combattants, d'après Moscou, allié du président syrien Bachar al-Assad. Pendant que les combats continuent donc à faire rage dans cette ville de Raqqa, une délégation turque menée par le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, se trouvait en Russie aujourd'hui pour évoquer la Syrie. Dossier qui opposait diamétralement Moscou et Ankara, mais dans la foulée de leur réconciliation officielle, le ministre Cavusoglu affirme que la Turquie a proposé à la Russie d'effectuer ensemble des opérations contre le groupe État islamique en Syrie. Ce projet de coopération intervient deux jours après le tête-à-tête entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine. Pour sa part, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés appelle toutes les parties impliquées dans le conflit syrien à assurer la sécurité des civils qui, selon le HCR, subissent violence et déplacement.
Campagne présidentielle américaine maintenant, le candidat républicain Donald Trump multiplie les déclarations controversées alors qu'il perd du terrain dans les sondages par rapport à son adversaire, la démocrate Hillary Clinton. Toutefois, le candidat républicain semble peu disposé à changer sa stratégie. Stratégie qui lui a permis de battre ses adversaires pour décrocher l'investiture de son parti. Et écoutons l'analyse d'Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University, ici à Washington.
Le candidat républicain Donald Trump ne l'a jamais caché avant même le début de sa carrière politique. Pour lui, il n'y a pas de mauvaise presse. C'est une ancienne expression américaine que c'est mieux si les personnes parlent mal de toi que s'il y a du silence. Par exemple, lorsque sa femme Melania fut accusée d'avoir plagié un discours de Michelle Obama, il se contente de démentir, de dire que c'est la faute des médias, de se poser en victime et de profiter des projecteurs médiatiques qui sont braqués continuellement sur lui. On parle beaucoup maintenant de cette accusation que peut-être il a incité quelqu'un à tuer Hillary Clinton, disant qu'elle va éliminer le deuxième amendement de la Constitution. Comme à chaque départage contrôlé de Donald Trump, la classe politique et notamment les républicains modérés se sont épuminés contre une sortie qu'ils pensent inacceptable. Et comme à chaque fois, l'équipe de campagne républicaine a éludé sur le fond, jurant que, par exemple, la phrase était mal interprétée, que ça rassemblait surtout une blague, que la presse n'avait décidément aucun humour.
Aucun sens de l'humour.
Naturellement pas. La presse, dans son ensemble, justement, n'est pas totalement à l'aise devant cette énième politique.
Selon les derniers sondages, Mme Clinton mène Trump d'environ 10 points. Est-ce que c'est gagné pour l'ancienne secrétaire d'État?
Elle est avant Trump dans les sondages nationaux. Et naturellement, il y a encore beaucoup de temps entre aujourd'hui et novembre. Il peut se passer tout dans ces trois mois qui nous séparent de l'élection. Mais il semble qu'il y a de plus en plus de gens, même républicains, qui pensent qu'ils ne peuvent pas voter pour Trump. Ça ne signifie pas qu'ils vont voter pour Hillary Clinton. Peut-être qu'ils vont jeter son vote en votant par le candidat du Parti vert, par exemple, ou d'autres partis pas importants de tout dans la politique des États-Unis.
Le professeur Emilio Viano de American University, ici à Washington, joint par Timothée Donangmaï. Et pour terminer, sixième journée des Jeux Olympiques de Rio, le continent africain a maintenant 5 médailles, dont une en bronze gagnée hier par la Tunisienne Inès Boubakri, grâce à un exploit jamais réalisé auparavant par quelqu'un venant d'Afrique. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, qui couvre les Jeux à Rio.
Historique ce mercredi 10 août 2016, première médaille olympique dans une discipline dont les tableaux de récompenses n'affichaient jusqu'ici essentiellement que des noms occidentaux. L'héroïne du jour, c'est la Tunisienne Inès Boubakri. Elle a remporté la médaille de bronze en battant la Russe Aïda Chanaïeva 15-11 lors de la petite finale ce mercredi à Rio. Je mérite cette médaille et je suis fier, a-t-elle réagi après avoir décroché cette récompense qu'elle dédie à la femme tunisienne.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention.